à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme. Victoire éternelle aux peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui luttent.
Mort à la France-Afrique. J'ai dit mort à la France-Afrique.
La matinale décoloniale, une émission critique de la France-Afrique. Sur Radio Campus Grenoble,
90.8.
Y'en a marre, c'est du racisme. Y'en a marre, raciste étant. Y'en a marre, les lois racistes. Y'en a marre, les lois fascistes. Y'en a marre.
Chaque mois, de l'actu,
de l'histoire,
des actions,
des luttes et du bon son.
France, dégage. Du franc CFA, fausse coopération. France, dégage. Soutien aux dictatures, massacre et pillage. France, dégage.
La matinale décoloniale.
Sur Campus Grenoble 90.8.
Un vendredi par mois, de 11h à midi.
Pour en finir avec l'Empire et toutes les colonies.
Bonjour.
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 Bienvenue dans la matinale décoloniale. Le 27 janvier 2025, le mouvement militaire dit du M23, accompagné de soldats de l'armée rwandaise, prenait la ville de Goma, capitale des provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce mouvement armé contrôle toujours la zone aujourd'hui, le 11 avril, et on avait envie de s'y intéresser et de tenter d'expliquer ce qui s'y passe. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi des soldats rwandais soutiennent la conquête militaire d'une ville du Congo? Pourquoi l'Est du Congo est en guerre presque continue depuis plus de 30 ans? Quel lien cela a-t-il avec le génocide des Tutsis au Rwanda de 1994, qui est commémoré chaque année en avril?
Alors, avant de se plonger dans le vif du sujet, je vais voir si vous avez un peu préparé votre sujet. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve le Rwanda et quel pays entoure le Rwanda?
La région des Grands Lacs.
Ouais.
Il y a le Burundi, l'Ouganda,
ouais.
La RDC.
Oui, il en reste un.
La Tanzanie.
Bravo, oh oui. bravo. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, du coup, le Rwanda, ça fait à peu près la taille de la Bretagne, alors qu'à côté, la voisine RDC, elle est plutôt à peu près 4 fois la France, quoi. Voilà. Bon, on part donc au Rwanda. Et une petite page d'histoire pour commencer. Donc le royaume du Rwanda, il a longtemps été gouverné par des rois Tutsis et il a été successivement colonisé par les Allemands, puis les Belges. Les colons ont conservé un système monarchique en s'appuyant, pour gouverner, sur la minorité des Tutsis au pouvoir. Les groupes Hutus et Tutsis, ce n'étaient pas des ethnies différentes, mais plutôt des groupes sociaux, donc comme tout groupe social, mouvant. On avait des Tutsis qui étaient éleveurs, plutôt minoritaires, et des Hutus agriculteurs, donc plutôt majoritaires. Ceux-ci partageaient une même langue, une même culture, une même religion et un même territoire.
Au final, donc, on peut dire que c'était un même peuple, les Banyarwanda.
Tout à fait. Ce sont les colons qui ont ethnicisé ces catégories et fait apposer des mentions ethniques sur les cartes d'identité. Ces clivages, ils ont conduit en 59-61 à une révolution sociale qui a été menée par les Hutus, qui étaient considérés comme inférieurs dans la société coloniale. Ils devenaient, comme ça, les nouveaux alliés des colons, au moment où la minorité Tutsi, elle commençait à revendiquer l'indépendance.
Bien pratique pour les colons.
Et tout à fait, pas bête les colons. Cette révolution, elle va s'accompagner de massacres de Tutsi et entraîner le départ en exil de plus de 300 000 d'entre eux. Et cette révolution, donc, elle met fin à la monarchie et crée un gouvernement républicain qui, lui, est dominé par les Hutus. Le Rwanda, il suscite l'intérêt de la France dès les années 60, comme une porte d'entrée vers la zone anglophone et le Congo voisin. Le premier président rwandais, Grégoire Kayibanda, en 62, est remplacé à la suite d'un coup d'État par Juvénal Habyarimana en 73. La politique pro-Hutu se poursuit et la France signe un accord d'assistance militaire avec le nouveau régime en 1975. C'est la première pierre à l'édifice de la coopération franco-rwandaise. D'ailleurs, le président Habyarimana, il va dire à propos, le président du Rwanda, il va dire en 77 qu'il est devenu un membre à part entière de la famille franco-africaine. De 1990 à 1994, la France est très impliquée dans la politique rwandaise. Et en 94, suite à l'assassinat du président Habyarimana, la France s'accroche à l'idée de reconquête et se rend complice du génocide des Tutsis au Rwanda. Donc ce génocide qui va se dérouler d'avril à juillet 1994, il va causer entre 300 000 et 800 000, il va entre 800 000 et 1 million de personnes vont être exterminées sous prétexte d'être Tutsi ou pour s'être opposé à cette extermination. 30 ans après, la complicité et les responsabilités de l'État français dans le génocide sont toujours pas assumées. Et nous, on avait envie de revenir un peu là-dessus aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'une complicité de génocide ? En droit international, on est un accusé est complice de génocide s'il a sciemment et volontairement aidé ou assisté d'autres personnes à commettre le génocide, même si l'accusé lui-même n'avait pas l'intention spécifique de détruire le groupe ethnique, racial et religieux visé.
Alors effectivement, de ce point de vue-là, les autorités politiques et militaires françaises de l'époque se sont rendues complices de ce crime en soutenant les autorités rwandaises avant, pendant et après le génocide. Alors concrètement, comment ? On peut donner quelques éléments pour justifier cette accusation. Déjà, on peut dire que l'armée française, elle était présente sur place lors de la préparation du génocide et c'est en connaissance de cause que la France a livré des armes et formé les soldats qui s'apprêtaient à le commettre. La France, elle a continué de livrer des armes après l'embargo décidé par l'ONU. On sait aussi que le gouvernement génocidaire a été formé dans l'enceinte de l'ambassade de France en avril 1994 à Kigali. Il y a des représentants du régime génocidaire qui ont été reçus à l'Élysée en plein génocide. La France a ainsi reconnu le gouvernement génocidaire et elle fut le seul pays occidental à le faire. Enfin, on peut aussi dire que l'opération Turquoise, donc qui était une opération militaire menée par la France avec l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, a été des plus ambiguës, puisqu'elle a permis à des responsables et auteurs du génocide de fuir par la zone dite humanitaire sûre, sans être désarmés ni arrêtés, et ce, en violation de la Convention de l'ONU. Ils ont ensuite pu se réfugier aux aires voisins, donc aujourd'hui la République démocratique du Congo, où la France a continué de leur livrer des armes. Ces faits documentés, en fait, ils viennent donner corps à l'accusation de complicité.
Mais alors pourquoi la France a mené cette politique ?
Il faut comprendre qu'à l'époque, les intérêts géopolitiques étaient alors le maintien d'une zone d'influence française dans une région à dominante anglophone. Le soutien inconditionnel à des alliés, même si c'était des criminels, ça a prévalu sur tout. Le génocide a quant à lui été considéré comme secondaire. Il y a une phrase qui résume bien le positionnement de l'époque et qui traduit un racisme latent. C'est une citation de François Mitterrand qui dit à propos du Rwanda.
Dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas trop important.
Alors, plus de 30 ans après, le négationnisme il reste très fort en France et la justice y est particulièrement lente. Elle se voit d'ailleurs condamnée pour cette lenteur par la Cour européenne des droits de l'homme en 2004. Les présumés génocidaires réfugiés en France tardent à être jugés. À ce jour, plus d'une trentaine de plaintes, certaines déjà déposées dès 1995, sont encore dans l'attente d'être jugées. Le premier procès a eu seulement lieu en 2014 et depuis, seules une dizaine d'hommes ont été jugés. Quant aux procédures à l'encontre des Français, donc qu'ils soient militaires, responsables politiques ou mercenaires, aucune n'a encore débouché sur un procès. Enfin, la déclassification de documents marqués secret défense, qui était une promesse d'Emmanuel Macron, n'est pas entièrement effective et certaines archives, notamment celles de l'Assemblée nationale, sont restées fermées.
On peut pas oublier la France-Afrique, ni que le temps des colonies.
Alors, suite à ce génocide, de 1994 à 2021, les relations entre la France et le Rwanda vont être très chaotiques. En 2006, le Rwanda il va rompre toutes les relations diplomatiques avec la France, suite aux accusations d'un juge français, le juge Bruguière. Et il va acculer la France à faire la lumière sur le rôle qu'elle a joué au Rwanda, en publiant en 2008 un rapport qui montre son implication au plus haut niveau de l'État dans la préparation et l'exécution du génocide. Et en réponse à ces accusations, la France, elle, va émettre des critiques sur l'autoritarisme de Paul Kagame, le dirigeant du Rwanda, et son rôle dans les guerres du Kivu. ces critiques, basées sur des faits réels et démontrées, interrogent un peu parce que la France, elle ne se prive pas d'entretenir des relations étroites avec d'autres dictatures criminelles du continent. En 2021, Emmanuel Macron va charger une commission d'historiens de faire la lumière sur l'implication française. Ça va être la commission Duclert. Et cette commission, elle va conclure à des responsabilités lourdes et accablantes de la France, sans parler de complicité. Cependant, suite à l'apparition de ce rapport, les critiques vont être balayées, côté français comme rwandais, et les relations vont pouvoir reprendre pour privilégier la coopération économique en plein essor entre les deux pays. Le Rwanda va réintégrer la famille france-africaine.
On écoute maintenant le titre « Petit pays » de Gaël Faye.
Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka, gahugu gatoyi, gahugu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'encanaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, si t'aimant un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Thank you.
êtes toujours sur Radio Campus Grenoble au 90.8. Et après le Rwanda, on va vous parler maintenant de la RDC, la République démocratique du Congo. Et un petit quiz pour se mettre dans le bain. Est-ce que vous diriez de ce pays que c'est un pays riche ?
Ah bah ça dépend.
Alors,
ça dépend ce qu'on regarde.
Il y a son sous-sol.
Ouais, que révèle le sous-sol de la RDC ? Vous êtes capable d'en parler un peu ?
Énormément de minerais.
Plein de trucs. Ouais, plein
de terres rares.
Ouais, tout à fait. Il y a aussi quand même une forêt, qui est quand même assez incroyable. Ça fait partie des poumons de la planète.
Ouais, la deuxième plus grosse forêt, je crois.
Ouais, et il y a aussi une faune et une flore vraiment phénoménales. Ouais. Il y a une agriculture aussi. C'est par exemple le premier producteur de bananes plantain. Il y a tout un tas de produits agricoles qu'on retrouve en RDC. Et pourtant, la population manque parfois d'eau potable dans un pays qui regorge d'eau. Hein, a du mal à accéder
effectivement des services de base.
Et des services de base, tout à fait. Voilà, donc effectivement, c'est riche et pas riche, ça dépend de quel point de vue on se place. Et donc, pour vous parler de la République démocratique du Congo, pour changer un peu, Joseph, tu avais envie de nous lire un extrait de roman ?
Oui, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, donc qui a été écrit par l'autrice Barbara Kingsolver, qui s'appelle « Les yeux dans les arbres ». Et donc ce roman, c'est l'histoire d'une famille américaine dont le père est un révérend évangéliste, un baptiste assez fanatique, et qui part s'installer avec sa famille. Bon, sa famille, elle n'a pas trop le choix, hein, c'est quand même lui qui décide de tout. Il va s'installer au Congo en 1960 pour évangéliser la population d'un petit village de campagne au cœur de la forêt. Et l'installation et les conversions qui l'attendraient ne vont pas du tout se passer comme il l'imagine. Dans le roman, l'histoire est racontée tour à tour par la mère de famille et par ses quatre filles. Et donc dans cet extrait, c'est la mère qui raconte, elle est devenue plus âgée, elle raconte après coup, et elle vit à nouveau aux États-Unis quand elle en parle. 15 ans après l'indépendance, en 1975, un groupe de sénateurs, réunis sous le nom de Comité Church, a pris sur lui d'examiner de près les opérations secrètes qui avaient été menées au Congo. Le monde en fut ébranlé de stupeur. Le comité de Church découvrit les notes des rencontres secrètes du Conseil national de sécurité et du président Eisenhower. Dans leur bureau verrouillé, ces hommes s'étaient entendus pour déclarer que Patrice Lumumba était un danger pour la sécurité du monde. Ce même Patrice Lumumba, attention, qui se débarbouillait tous les matins dans une cuvette d'aluminium cabossée, qui se soulageait derrière un buisson soigneusement choisi et allait à la recherche des visages de sa nation. Imagine qu'il ait pu entendre ces mots. Dangereux pour la sécurité du monde. Sortis d'une pièce remplie de blancs qui disposaient entre leurs mains manucurées, d'armées et de bombes atomiques, du pouvoir de supprimer toute vie sur Terre. Lumumba aurait-il miaulé à l'instar d'un guépard ? Ou aurait-il simplement ôté ses lunettes pour les essuyer avec son mouchoir, en secouant la tête et en souriant ? Par une journée de la fin du mois d'août 1960, un certain Mr. Allen Dulles, qui était responsable de la CIA, expédiait un télégramme à son délégué en poste au Congo, lui suggérant de remplacer le gouvernement congolais dès que possible. Le représentant, Mr. Lawrence Devlin, fut donc chargé d'entreprendre une action d'autant plus audacieuse qu'elle resterait secrète. Un coup d'État serait parfait. De l'argent arriverait afin d'indemniser les soldats à cet effet. Mais un assassinat serait d'un moindre coût. Une troupe d'hommes, rapides de la gâchette et sans scrupules, serait à sa disposition. Et aussi, pour ne rien laisser au hasard, un scientifique. Le docteur Gottlieb fut pressenti pour fabriquer un poison qui entraînerait une maladie tellement affreuse, le bon docteur devrait en témoigner par la suite, au cours des auditions, qui, si elle ne le tuait pas immédiatement, le laisserait tellement défiguré qu'il devrait renoncer à être meneur d'hommes. Ce même jour d'août, tout ce que je savais, c'est que la douleur de ma maisonnée semblait bien assez vaste pour remplir le monde entier. Ruth May glissait de plus en plus profondément dans sa fièvre, et c'était le 17e anniversaire de Rachel. J'avais enveloppé les boucles d'oreilles vertes en cristal dans du papier de soie, espérant faire un tant soit peu la paix avec mon aîné, tout en m'efforçant d'apaiser le feu de ma plus jeune avec une éponge. Au même moment, le président Eisenhower donnait l'ordre de changer le pouvoir au Congo. Imagine ça. Sa maison était le monde, il avait fini par se décider. Il avait donné sa chance à Lumumba, pensait-il. Le Congo aurait connu l'indépendance durant 51 jours. Mr. Devlin et ses amis s'entendirent avec Mobutu, l'ambitieux jeune homme qui venait d'être promu colonel. Le 10 septembre, ils fournirent une somme d'$1 million en argent des Nations Unies destinée à acheter les loyautés. et le département mit la touche finale à ses projets de coup d'État qui rendraient Mobutu responsable de toute l'armée. Toutes les cibles étaient alignées. Le 14 septembre, l'armée prit le contrôle de la République provisoirement indépendante du Congo et Lumumba fut placé en maison d'arrêt, à Léopoldville, encerclé des soldats fraîchement achetés de Mobutu. Voilà, ensuite, dans le roman, elle raconte comment Lumumba a pu s'échapper donc, de cette résidence surveillée. Il a été en cavale, puis il s'est fait repérer par un agent de la CIA, puis rattrapé par l'armée congolaise. Et il finira par être massacré, je crois qu'on peut le dire.
Et du coup, tu nous lis un autre extrait ?
Ouais, encore un petit extrait pour finir. 15 ans après que tout ceci fut arrivé, j'étais installé près de ma radio, à Atlanta, en train d'écouter le sénateur Church et les auditions du comité spécial à propos du Congo. J'ai enfoncé mes ongles dans la paume de mes mains, à en déchirer ma propre chair. Où avais-je donc été ? Totalement ailleurs ? Du coup d'état du mois d'août, je suis certaine que nous n'avons rien compris. Des 5 mois qui suivirent l'emprisonnement, la fuite et la capture de Lumumba, je me souviens de quoi ? De la difficulté de laver et de cuisiner en pleine sécheresse. L'histoire était loin de mes préoccupations. Maintenant, non. Maintenant, je sais qu'il est illusoire, quels que soient ses soucis, d'ignorer le lot des plus puissants. En cette atroce journée de janvier 1961, Lumumba a payé de sa vie, de même que je l'ai fait. Voilà, donc Patrice Lumumba, ça a été le leader du mouvement indépendantiste congolais. Ça vaut quand même le coup de rappeler qu'avant l'indépendance, l'immense Congo a été un temps avant la propriété personnelle du roi des Belges. D'où les noms que j'ai pu citer, par exemple de Léopoldville ou Stanleyville, pardon, par exemple. Et donc Lumumba était très rapidement victime d'un coup d'État piloté par les Occidentaux, dont l'ex-puissance coloniale belge. Et c'était une personnalité inspirante, on se disait qu'on aurait peut-être envie d'en reparler dans une autre émission. Comme pour beaucoup d'anciennes colonies, l'indépendance réelle donc, n'aurait été qu'un espoir. Parce que donc au Congo, c'est ensuite Joseph Mobutu qui va s'installer au pouvoir. Et il faut croire que ça conviendra très bien aux puissances occidentales, puisque sa dictature, qui était assez féroce, durera jusqu'en 1997, soit 32 ans. Voilà, alors pour comprendre la suite, on revient juste un tout petit peu en arrière, en 1994, au Rwanda.
Oui, donc c'est la fin du génocide des Tutsis au Rwanda, elle arrive avec la prise de Kigali, la capitale rwandaise, par le Front Patriotique Rwandais, FPR. Et du coup, cette arrivée à Kigali, par le FPR, elle a entraîné la fuite d'un million de Hutus vers le Zaïre, qui est le pays voisin, qui était le nom de la République démocratique du Congo à cette époque. Et cette fuite, elle se fait par la zone humanitaire sûre dont on a parlé tout à l'heure, qui est tenue par la France avec l'opération Turquoise. Et en fait, les milices et le gouvernement génocidaire Hutu, ils vont pouvoir fuir par cette zone sans que la France ne cherche ni à les arrêter, ni même à les désarmer. Et du coup, ces milices, elles vont se reconstituer dans les camps de réfugiés Hutus à la frontière du Rwanda, du coup, au Zaïre. Dans le Kivu, en fait, c'est la région à l'est du Congo, de la RDC. Et donc, ils vont se reconstituer avec l'idée de renverser le pouvoir à Kigali et poursuivre le génocide. Ces milices, du coup, elles constituent l'armée de libération du Rwanda, qui deviendra plus tard, dans les années 2000, les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, dont on parle encore aujourd'hui. Et cette armée, elle va commettre des exactions, enfin, elle commet des exactions contre les Tutsis qui sont présents au Zaïre, et elle multiplie également les incursions au Rwanda durant les années, notamment 95-96. Et fin 96, les gouvernements du Rwanda et d'Ouganda, ils s'allient à Laurent Désiré Kabila, qui est un rebelle congolais, qui veut faire tomber Mobutu, qui est le dictateur, comme on a vu, au pouvoir au Zaïre depuis l'assassinat de Lumumba. Et le Rwanda, il a aussi dans l'idée de régler les problèmes des milices génocidaires qui sont présentes à l'est du Zaïre. Du coup, à ce moment-là, ils créent ensemble l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, AFDL, qui contiennent donc les milices Banyamulenge, qui sont des Congolais Tutsis, les rebelles congolais dont Kabila, et des éléments des armées rwandaises et ougandaises. Du coup, ça, c'est le début de la première guerre du Congo. L'AFDL de Kabila, je vais simplifier un peu, enfin j'essaye en tout cas, et dont on vient de parler, du coup, attaque et détruit les camps de réfugiés Hutus qui sont utilisés par l'armée des milices génocidaires comme base arrière. Mais à ce moment-là, l'AFDL va ne faire aucune distinction entre civils et combattants, et du coup, de nombreux massacres ont lieu dans ces camps, et du coup jusqu'à la prise de Kinshasa, la capitale de RDC, en mai 1997. Le Zaïre, à ce moment-là, devient République démocratique du Congo, et Kabila en devient son président. On passe en 98. Du coup, fin 98, changement de stratégie, changement de, d'alliés. Kabila demande à l'Ouganda et au Rwanda de retirer leurs troupes de la République démocratique du Congo. Du coup, ils étaient alliés jusque-là, puis là, il leur dit « Allez, vous dégagez ». Ces deux pays, eh ben, ils ont leurs groupes armés qui sont situés dans l'est du pays, du coup, dans cette région du Kivu. Et ils profitent des régions minières particulièrement riches pour en exploiter les ressources. Du coup, bien sûr, bah, ils ne veulent pas partir. Ah bah non. Voilà. Donc, ils créent un nouveau mouvement rebelle congolais qu'ils appellent le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, RCD. Et du coup, ce nouveau mouvement, ils le créent pour provoquer un changement de régime à Kinshasa. Mais les rebelles vont se faire repousser du coup de Kinshasa avec l'aide de la population de la ville et qui y voit une tentative d'invasion étrangère. Mais Kabila, il est également soutenu par l'Angola, la Namibie et le Zimbabwe. Et ça, c'est le début de la deuxième guerre du Congo, qui est aussi appelée la première guerre mondiale africaine, qui implique 9 pays africains, une trentaine de groupes armés. Et cette guerre, elle va durer 5 ans. Elle va faire plus de 4 millions de morts entre 1998 et 2003, dont la majorité sont liées à la famine, aux maladies, aux conditions sanitaires générées par la guerre. Et alors j'ai pris le chiffre, parce qu'il y a eu un gros débat sur le chiffre des morts de cette guerre, mais là j'ai pris les chiffres de l'ONG, International Rescue Committee, qui allait faire des enquêtes sur place et du coup essayer de compter le nombre de victimes. Il y aura également des millions de personnes déplacées. Le viol est utilisé comme arme de guerre et il a touché massivement les femmes et les enfants de l'est du Congo. Et les conséquences psychologiques et sociales sont énormes. Et les viols, ils ont également contribué à une propagation énorme, très accélérée du sida. Du coup, officiellement, cette guerre, elle s'arrête en 2003, après plusieurs accords de paix, plusieurs cessez-le-feu et également l'assassinat de Kabila père, qui sera remplacé par son fils en 2001. Mais en réalité, la guerre, elle ne s'est pas arrêtée pour la région du Kivu.
Pendant que ma sagesse résonne, un enfant meurt dans les mines du Congo. Sur mon iPhone, je raconte le monde.
Mais du coup, c'est quoi cette guerre du Kivu ?
Alors déjà, le Kivu, je l'ai dit, c'est une région qui est située à l'est de la République démocratique du Congo. Du coup, elle est frontalière à l'Ouganda, au Rwanda, au Burundi, à la Tanzanie. Et cette guerre, eh ben, elle va en fait commencer après la fin de la guerre de la RDC, du coup en 2004 jusqu'à aujourd'hui. Donc après la tentative de renversement, on l'a vu tout à l'heure par les rebelles soutenus par le Rwanda et l'Ouganda, Kabila, à ce moment-là, il va lancer des messages de représailles contre ces rebelles en centrant son discours sur les Tutsis, ce qui conduira à la mort de centaines de Tutsis dans la capitale et à la fuite de milliers d'autres. Et il va également s'allier militairement avec l'armée des milices génocidaires Hutus pour lutter contre ces rebelles congolais du RCD, du coup le Rassemblement Congolais pour la Démocratie.
Du coup, ça veut dire qu'au départ, il était contre ces armées, puis là, du coup, il s'est allié avec eux, alors, c'est ça ? Il
a ouais, alors aussi ça ses va. Alliances. C'est ça, les alliances vont énormément bouger, j'imagine, en fonction un peu des... Bon, on le verra tout à l'heure, je pense que c'est tout tourne aussi autour des exploitations de la région minière, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment des jeux d'alliances qui se font, parce que du coup, là, il s'allie avec les anciennes milices génocidaires pour chasser... Les rebelles soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Du coup, cette intégration des anciens génocidaires dans l'armée congolaise, elle va être un argument côté Rwanda pour continuer de soutenir et d'armer des mouvements rebelles à l'est de la RDC. Et entre 2004 et 2009, du coup, le Rwanda, il soutient un nouveau mouvement qui s'appelle cette fois le Congrès pour la Défense des Peuples, CNDP, qui a pour objectif affiché de défendre les Tutsis congolais et de neutraliser les anciennes milices génocidaires Hutus, qui forment ce qu'on avait appelé tout à l'heure les FDLR, du coup les Forces démocratiques de libération du Rwanda. Du coup, ce CNDP, il prend le contrôle de plusieurs zones au nord Kivu et arrive aux portes de Goma en 2008. Goma, c'est la capitale du nord Kivu. On en a entendu parler avec le M23 dans l'actualité. Et fin 2008, les gouvernements rwandais et congolais y concluent un accord qui vise un peu à stopper la rébellion du CNDP en échange d'une lutte commune contre les milices génocidaires Hutus sur le sol congolais. Et à ce moment-là, le CNDP est intégré à l'armée congolaise. C'est un joyeux bordel quand même.
Ouais,
donc ils sont intégrés à l'armée congolaise et il y a cet accord de lutter contre les anciens génocidaires. Mais en 2012-2013, en fait, il y a une rébellion des anciens combattants de ce groupe-là, du CNDP, du coup, qui vont créer le mouvement du 23 mars, qui s'appelle M23, et c'est de celui-là dont on parle aujourd'hui. Et en fait, eux, ils créent cette rébellion parce qu'en gros, ils accusent Kinshasa de ne pas avoir respecté ces fameux accords de 2008, c'est-à-dire de ne pas lutter contre les milices génocidaires, par exemple. Enfin, il y avait plusieurs accords, mais... Et du coup, ce M23... il recommence la lutte armée, il s'empare de territoire au nord Kivu et il entre dans Goma avant qu'il en soit repoussé par l'armée gouvernementale et les soldats de la MONUSCO, qui est la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. En 2013, un accord est signé entre Kinshasa et le M23 avec du coup la dissolution du M23, avec aussi, pareil, une partie des personnes qui sont censées être réintégrées dans l'armée, etc.
Il ne va pas être complètement dissous puisqu'on en entend encore parler.
Et ben voilà, finalement, en tout cas, il était en sous-marin.
D'accord.
On ne sait pas exactement, toujours est-il que... Bah si, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il a été quand même armé par le Rwanda. Et du coup, il y a plein d'armes qui ont été financées et armées par le Rwanda. Et du coup, il refait surface en 2021. Et là, c'est une grosse force de frappe alors qu'il était quasiment dissous. D'un coup, c'est une énorme armée qui revient et qui contrôle la moitié de la province du Nord Kivu. Et donc, il compte... alors, il faut dire qu'il y a énormément de groupes armés dans l'est du Kivu. Dans cette région du Kivu, dans l'est de la RDC, c'est actuellement 266 groupes actifs qui ont été identifiés, en tout cas groupes armés, qui ont été identifiés dans cette région. Mais du coup, le M23, c'est un des principaux de cette région-là.
Désormais, on va s'écouter le morceau Oser la paix de Lexus Legal avec Tikenja Fakoli.
Bokoyo Congo, ekola tobete la katolo yo, soki solo pona Congo, konga kosala kimia yango yo.
Lexus, ouais Tiken, le Congo est fort, le Congo est riche. Le Congo est faible,
okay.
Parce que le Congo est divisé.
La preuve qu'un pays peut se perdre entre deux lignes et son hymne.
Yeah.
On se retrouve
enfermé derrière une porte ouverte. La paix compte ses plumes depuis que la guerre a pris des ailes.
L'air sont réduits nos rêves.
Vie d'hospice dans un pays palace. D'office coupable, la justice est lâche. Sur les silences, t'as tué la parole. Y'a plus d'oreilles qu'il y a des murs. Depuis que nos sangs choquent les ondes, le cours de l'or sur les crimes en cours. Sur des pertes faites bénéves, corps sur table et ronde. Des aigles feintent d'être rossignol. La paix au bout de la langue, des armes au bout des ongles. Nos cris pour ces surdoués demeurent muets. En clair écrit sur visage et ventre, nos démons ont les torches chics d'aveugler des visionnaires. Écorchés, vifs, on tient le coup de tête d'ailleurs. D'ailleurs, plus qu'un constat, l'échec est une leçon. La guerre est une mauvaise réponse à des bonnes questions. On vit après la pluie, crache pas sur le beau temps. Vous éplontez l'avenir entre charniers et coltan. Énorme est le chantier, sommes-nous pas des titans?
Des bulles d'emprise entre Occident et Orient. Résistant, l'espoir on se scarifie sur le torse. Au-delà de la foi, on sait notre sort au bout de la pioche. Des larmes en sueur au bout de la course. Au bout de la nuit, le soleil pour tous, c'est son réveil. Sonne la cloche. Pour l'histoire, le présent est piégé. L'amnistie devra se justifier. Aux amnésiques à qui je dédie ce son. La guerre est une mauvaise réponse à des bonnes questions.
Ah, Congo, Congo y'a Lumumba. Congo y'a Kibangu. Et toi le ciel t'aidera. Et toi le ciel t'aidera. Bokoyo Congo. Monga kosala kimia yango yo. Monga kosala kimia yango yo. Monga kosala kimia yango yo. Bokoyo Congo.
A chaque saison,
les ennemis
d'histoire nous ressortent la même version. Amnésie, comment on a l'absent. Notre sort est triste.
Lexus, Wenja, dis-moi, s'il y a la paix au Congo et que les Congolais sont unis, le Congo donnera la voix au reste de l'Afrique.
Comme tu sais, il y a ceux qui écoutent et il y a ceux qui comprennent.
I will lick a Congo never. 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 I will lick a Congo never.
Vous écoutez la matinale décoloniale sur Radio Campus Grenoble 90.8 et on va poursuivre cette émission en abordant les responsabilités de l'Europe et de la France dans la situation en RDC.
Alors, comme on vient de le voir avec Anélie, à partir de novembre 2021, le M23 reprend massivement les hostilités. Et ça va notamment forcer le déplacement de centaines de milliers de personnes dans des camps de réfugiés autour de la ville de Goma. À partir de janvier 2025, donc c'est très récent, les offensives elles vont s'intensifier encore. Et le M23 va jusqu'à prendre la ville de Goma. Alors, il y a plusieurs rapports de l'ONU qui attestent de la présence massive de soldats rwandais, qui auraient même dépassé celle des combattants du groupe rebelle. Le Rwanda, en fait, il se rend donc complice d'effroyables exactions, des exécutions de civils, des tortures, des viols de masse et aussi un enrôlement des enfants soldats. Malgré ces rapports, le président rwandais Paul Kagame continue de nier la présence de ces soldats, alors même qu'ils conditionnent leur retrait à la neutralisation donc, du FDLR, donc, comme je le rappelle, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, qui est donc un groupe armé composé d'anciens génocidaires en exil. Ce groupe armé il tente parfois de mener des attaques et des incursions au Rwanda. Cependant, avant 2021 et la reprise des offensives, ce groupe était assez affaibli et il semblait plutôt incapable de déstabiliser le Rwanda. Idem pour les persécutions contre les Tutsis congolais. Donc, si leur stigmatisation est bien une réalité de longue date, on voit en fait que les exactions récemment commises par le M23 a ravivé les persécutions et a notablement dégradé leur sécurité. De ce point de vue, si la protection des Tutsis rwandais et congolais de la menace post-génocidaire est strictement légitime, il semblerait qu'elle soit quand même agitée comme un prétexte à l'action du gouvernement rwandais en faveur du M23.
Mais alors du coup, c'est quoi qui vient maquiller cette instrumentalisation? Quels sont les enjeux à l'action de ce groupe armé?
Eh bien, l'enchevêtrement des motivations géopolitiques oblige une lecture complexe des faits. Si le M23 semble avoir des velléités de contrôle du territoire et des ambitions qui sont plus politiques, l'implication de différents pays sur ce théâtre de guerre y contribue également à régionaliser le conflit. Les motivations liées au pouvoir et à la sécurité sont bien indéniables. Cela étant dit, il faut nécessairement entrevoir la question économique comme étant le fil rouge qui sous-tend ce drame. La situation de guerre quasi perpétuelle que connaît le Congo depuis des décennies est intrinsèquement liée à la richesse de son sous-sol, où se trouve une quantité indécente de minerais rares et donc convoités. À ce sujet, on pourrait citer le chercheur Fabien Lebrun, qui vient de publier un livre intitulé « Barbarie numérique, une autre histoire du monde connecté ». Voilà ce qu'il dit.
Le Congo est qualifié de scandale géologique tant il regorge de ressources naturelles. Depuis la révolution industrielle, le Congo fournit en matières premières les différentes étapes de la mondialisation. du caoutchouc pour l'industrie du pneu et la civilisation de l'automobile à la fin du XIXe siècle, des métaux utiles en temps de guerre pour les deux conflits mondiaux du XXe siècle, zinc, cuivre, plomb, manganèse, etc., du cobalt pendant la guerre froide et la course aux armements, jusqu'à l'uranium du Katanga et à l'origine de la bombe atomique. Le Congo répond à l'informatisation du monde des années 90-2000 de par l'abondance et la diversité minéralogique de son sous-sol, notamment ceux qualifiés de minerais de sang, le coltan qui sert à la fabrication des condensateurs, la cassitérite ou étain aux soudures des circuits électroniques et qui contribue avec l'indium à rendre les écrans tactiles, le tungstène qui est utilisé pour la sonnerie et le vibreur, l'or pour les circuits imprimés. Et tous ces minéraux sont présents au Kivu. Il faut ajouter le cuivre pour les câbles, le germanium pour la technologie Wi-Fi, le cobalt et le lithium pour les batteries des téléphones et ordinateurs portables, ainsi que pour les voitures électriques. Autant être clair, sans Congo, pas d'iPad, ni de Switch, pas de vélo électrique, ni de Tesla. Bill Gates et Elon Musk n'existent pas.
La rente minière du Congo, qui vient alimenter donc les groupes armés rebelles, est donc en interconnexion en fait, avec l'économie mondialisée. De ce fait, au-delà des acteurs régionaux, on retrouve impliqués les multinationales de l'extractivisme et des transports, ainsi que les États occidentaux et orientaux. S'agissant de l'Europe, elle a signé avec le Rwanda un protocole d'accord sur les matières premières en février 2024. Cet accord, il est fortement décrié puisqu'il vient reconnaître comme acceptables les chaînes d'approvisionnement et ferme donc les yeux sur les crimes de masse commis. Le Parlement européen, sous l'impulsion d'un travail de plaidoyer d'association, a déposé une résolution en février 2025 visant à suspendre cet accord. Pour l'instant, on n'en connaît pas l'issue. Quant à la diplomatie française, son positionnement vis-à-vis du Rwanda reste ambigu. On a vu que pendant des années, il y avait une rupture diplomatique. Et ça, c'était notamment dû à la mémoire du génocide et à l'implication française. Mais récemment, un changement de posture s'est fait sentir. En effet, même si elle a condamné le soutien massif du Rwanda au groupe armé M23, elle s'oppose aussi catégoriquement aux mesures contraignantes et aux sanctions pouvant faire cesser ce soutien. Alors, à quoi peut être due cette précaution ? Eh bien, peut-être parce que l'armée rwandaise s'est vue engagée au Mozambique en 2021 pour la sécurisation des sites du méga-projet d'exploitation gazière de Total Energy et d'ExxonMobil. Ces sites étaient en effet menacés par une insurrection djihadiste. Alors, sans affirmer que la France a directement demandé au Rwanda de mettre au service d'intérêts privés français son armée, on peut toutefois envisager qu'elle l'a tout de même fortement suggéré ou favorisé.
David Kitoko, de Génération Lumière, à la conférence « L'exploitation du cobalt au Congo » le 28 mars dernier à Grenoble, pendant le week-end de l'eau pas des puces.
Je dirais pas que le Ouganda et le Rwanda font du colonialisme au Congo. Je dirais que ce sont des officiers coloniaux, des nouveaux officiers coloniaux. Ceux qui, à l'époque, avaient la tâche de mater... de couper les mains dans les années 1885 jusqu'à 1908. Aujourd'hui, c'est le rôle de l'Ouganda et du Rwanda et des milices, d'autres bandes armées qui ne sont pas forcément tout le temps affiliées à ces nations-là, eh bien, vont faire ce travail-là. Comment ça se fait ? C'est-à-dire qu'on va avoir des territoires entiers où on va venir installer une terreur inouïe, notamment en passant par le viol qui est utilisé comme une arme de destruction massive. L'objectif est d'installer la peur, comme à l'époque coloniale. Peut-être la distinction avec l'époque coloniale, parce que l'objectif, ce n'était pas de tuer tout de suite, c'est de couper les mains, instaurer la peur dans la chair des Congolais pour qu'ils soient productifs. Donc tout ce qui était inutile à la production du caoutchouc, ils se faisaient tuer. Aujourd'hui, on va violer pour instaurer la peur, pour que les gens quittent les territoires, laissent les espaces vides, pour que ces bandes armées puissent exploiter facilement. Et lorsque les populations ne quittent pas les territoires, elles sont à la merci de toute forme d'exploitation, que ce soit des mines qui vont être là de manière industrielle ou de manière dite artisanale gérée par ces bandes armées. Donc l'Ouganda et le Rwanda, pour moi, ça ne sont pas de nouveaux colons, c'est vraiment des officiers coloniaux, de nouveaux officiers coloniaux d'un autre genre, c'est-à-dire qu'ils ont des états, mais qui vont amener leurs armées, qui vont s'allier avec des bandes armées qui se trouvent sur le sol congolais, et vont installer des régimes de terreur, vont occuper des territoires entiers, et pendant ce temps-là, on va exploiter massivement et intensivement les ressources. Nous avons, par exemple, dans une ville au Congo, dans les années 2000, une ville comme Kisangani, qui avait été... On a eu ce qu'on appelle la guerre de six jours, où vous avez l'Ouganda et le Rwanda qui se sont confrontés directement sur un territoire étranger, et dont l'objectif était le contrôle des métaux. Aujourd'hui, ce qui se passe, j'ai vu les tweets du chef des armées de l'Ouganda, qui déclare et qui dit si le M23, donc la bande armée qui est soutenue par le Rwanda, quand je dis soutenu, c'est faible comme mot, c'est-à-dire qu'ils ont un commandement militaire du Rwanda, ils sont financés par le Rwanda, et l'armée rwandaise est avec eux. Ce sont des chiffres des Nations Unies, c'est pas moi qui le dis, qui le sort de ma tête. En fait, ce tweet dit quoi? C'est le fils du président de l'Ouganda, qui est le chef des armées, qui dit « Si le M23 ne va pas dans telle ville, nous allons y aller. » Comme s'il y avait une sorte d'organisation et d'attente. Résultat, c'est qu'on a l'Ouganda qui produit, par exemple, de l'or au-delà de sa production habituelle. Et on a le Rwanda qui ne possède pas suffisamment du coltan dans son sous-sol, qui est le premier producteur du coltan au monde. Voilà un peu. Et quand je dis que ce sont des officiers coloniaux, c'est parce que le néocolonialisme, ce n'est pas juste une idée politique. Ça s'exprime, ça se matérialise par des accords bilatéraux que certains peuvent signer, comme l'accord qui a été signé par l'Union européenne pas plus tard qu'en 2024, le 19 février, avec les Rwandais, pour l'acheminement durable de ressources, en sachant que ça fait 30 ans de rapports des Nations Unies qui pointent le régime rwandais comme en partie responsable de ce qui se passe au Congo parce qu'il financerait des bandes armées. Mais l'Union européenne a quand même décidé de faire des accords avec ce pays-là en finançant directement l'armée rwandaise. Voilà pourquoi je dis que ce sont des officiers coloniaux. Parce qu'ils sont, ils sont là pour servir des intérêts impérialistes, comme la France ne peut pas aller s'y installer, comme les Belges ne peuvent pas aller s'y installer comme à l'époque. Alors on va utiliser les autres.
Alors comme on l'a dit tout à l'heure, les ethnies Tutsi et Hutu sont une création coloniale, puisqu'il s'agit en fait à la base de groupes sociaux. Et au sujet de la guerre de la RDC, il y a eu énormément aussi toute cette ethnisation et le racisme dans l'explication et dans la médiatisation de cette guerre. Du coup, au Congo, l'État colonial belge, il va augmenter le poids et le sens de l'appartenance ethnique. Il existe environ 450 peuples en République démocratique du Congo, ce pays dont les frontières ont été tracées, pour rappel, hein, entre les pays colonisateurs occidentaux lors de la conférence de Berlin en 1885. Et le pouvoir colonial belge, il va imposer la mention « tribu » dans chaque formulaire administratif. Et bien sûr, seuls les Blancs étaient exclus de cette obligation de dire quelle était leur tribu. Et cette structuration de la société congolaise, elle va être notamment à l'origine de la distinction entre immigrés rwandais et autochtones congolais. Le pouvoir colonial, dans les années 1920, il va faciliter l'arrivée des immigrants rwandais en les installant dans le Kivu et en déplaçant des autochtones congolais. C'est le début des tensions dans le Kivu à ce moment-là. Plus tard, Mobutu, le dictateur, il orchestre des conflits ethniques pour asseoir son pouvoir. Il va alimenter les tensions qui sont déjà existantes au Kivu entre autochtones et immigrants rwandais. Et ainsi, il va accuser les autochtones du Kivu d'être des rebelles favorables à Kabila et à d'autres, quoi. Et il va favoriser les immigrants et immigrantes rwandaises en leur donnant la nationalité congolaise à un très grand nombre d'entre elles et eux. Et les tensions entre autochtones et immigrantes rwandaises, elles auraient pu être étudiées sous le prisme de la xénophobie qui est créée et qui est encouragée par l'histoire coloniale puis par le dictateur Mobutu, car en fait c'est au départ bien une question de xénophobie dont il s'agit.
On retrouve les mêmes termes et les mêmes utilisations de la peur que les ministres et politiciens français de droite et d'extrême droite quand ils parlent de migrants, par exemple.
Bah oui, tout à fait. Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les autochtones congolais vont se sentir menacés par la présence de plus en plus nombreuse des Banyamulenge, qui sont les Hutus et les Tutsis, qui sont originaires du Rwanda. Et le fait de traiter les guerres africaines et celles du Congo en particulier comme des guerres ethniques, c'est une manière raciste en fait de faire perdurer l'idée que les Africains et les Africaines sont un peu des sauvages arriérés qui se battent entre tribus pour des broutilles. Et surtout, c'est une manière pour l'Occident de ne pas considérer sa part de responsabilité dans ces guerres et du coup de dire que ben, il peut rien y faire. Et en plus, dans la deuxième guerre en République démocratique du Congo, l'ethnicisation, elle est portée par Kinshasa et par Kigali. On l'a vu tout à l'heure, quoi. À chaque fois, il y a cette idée d'instrumentaliser un peu les ethnies. Et ça a eu des réelles conséquences, notamment avec les crimes de guerre qui ont été perpétrés par les différentes armées et bandes armées. Mais en fait, elle ne doit pas masquer non plus les enjeux économiques qui ont permis cette guerre et qui la font durer encore aujourd'hui. En 2001, il y a un groupe d'experts des Nations Unies qui a enquêté sur l'exploitation illégale de diamants, de cobalt, de coltan et d'or, notamment. Et le rapport, il désigne le Rwanda, l'Ouganda et le Zimbabwe comme principaux pays exploitant les ressources congolaises. Donc en fait, cette ethnicisation de la guerre, bah, elle a été reprise déjà globalement par la plupart des médias occidentaux de l'époque et encore aujourd'hui. Mais en fait, il faut voir que les médias occidentaux et les gouvernements occidentaux, ils préfèrent largement parler de conflits interethniques plutôt que de regarder les enjeux économiques dont l'Occident bénéficie largement. Alors comment il en bénéficie ? Par les rachats à coût très compétitif des minerais qui sont pillés ou par l'exploitation directe de mines. Parce qu'il y a des sociétés qui s'implantent en fait, des grosses boîtes occidentales qui s'implantent directement. Et du coup, elles s'implantent dans un pays qui est déstabilisé, qui est corrompu et qui permet donc une exploitation à de très faibles coûts.
On va s'écouter un titre du groupe Milk, Coffee and Sugar en featuring avec Djali, un titre qui s'appelle « Omantem ».
L'Afrique, je l'ai en moi, et je chante pour sa mémoire, je suis humain. Ni métis, ni blanc, ni noir, le Rwanda, je le pleure chaque 7 avril, même si Hubert Védrine n'est pas de notre avis. Au fait, vous savez, je suis franco-rwandais, et une partie de moi-même a tué l'autre, sans me le demander. Le Rwanda et la France m'ont tout donné, et m'ont tout pris, je veux être en paix avec moi-même, et cela à tout prix, je slame des mots, moi. J'ai pas que des mots, j'ai mes souvenirs, couleurs, de quand j'étais môme, de quand j'étais les pieds nus dans la latérite. Afrique à la dérive, je suis sentinelle sous la guérite. La pluie sur le goudron chaud, senteur que l'on humecte. J'ai dû quitter ce monde beau qui m'avait vu naître. J'ai débarqué un soir d'hiver à aéroport Charles de Gaulle, victime des dommages collatéraux du discours de la boule. Comme des métaux, c'est mon fond, ma forme, flow, métaphore que je manie. Comme le feu, la forge, ils ont partagé l'Afrique. À l'équerre, à l'écart, dans mon quart ou dans mon tiers de monde, devenu ma terre. J'ai trop pleuré quand mon peuple a perdu la raison. Ce sont nos larmes qui ont rempli tous les grands lacs de la région. Un hommage à la paix pour ce mort au combat. Soldat inconnu, hasta siempre, Fred Ruigema. Écoutez, nous ne sommes pas du même monde. Vous avez grandi en paix, nous revenons d'outre-tombe. Il fut long, très long, le chemin du retour. Les paroles ne servent à rien lorsqu'on épuise tous les recours. Reprendre
ce que la vie n'offrait pas. Sous des tentes du HCR et des couloirs de l'OFPRA, nos familles réfugiées, décimées, déracinées dans des pays frontaliers, elles furent marginalisées. J'en ai rêvé du pays de Guianga, des murmures de l'Inanga et des poèmes de l'Ugamba, d'écouter la rumeur sur les collines le matin, dans les reflets jacaranda de nos aurores de satin. J'en ai rêvé du pays du lait, du miel, des boissons fermentées et de la pierre d'hydromel. Nyabarongo, à tout jamais, tu es l'encre de ma plume et les cornes de la vache sacrée sont mon croissant de lune.
Vous êtes toujours dans la matinale décoloniale sur Radio Campus Grenoble 90.8. Et avant de passer à notre désormais traditionnelle rubrique sur les portraits d'ordures par notre spécialiste des déchets Mathilde, j'ai une petite question. Savez-vous ce qui est arrivé à Hubert Védrine le 28 novembre 2007 ?
Je crois que je sais.
Moi, je m'en souviens aussi.
Alors, dites-nous.
Eh bien, quelqu'un l'a aspergé de faux sang sur son manteau.
Sur son beau manteau en cachemire qu'il a porté plainte après. Tout à fait, ouais, il s'est fait arroser de faux sang. Et puis Mathilde, tu vas peut-être nous dire un peu pourquoi est-ce que des gens s'en sont pris comme ça à Hubert Védrine.
Oui, je vais essayer. Donc, c'est un proche de François Mitterrand. Hubert Védrine a été porte-parole de l'Élysée à partir de 1988. Puis il devient secrétaire général de l'Élysée de 91 à 95. À ce titre, il est aux premières loges avant, pendant et après le génocide des Tutsis au Rwanda en 94. Ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de Jospin de juin 97 à mai 2002, il supervise la réforme en février 98 du dispositif de coopération qui s'avère nécessaire après la cassure que représenta le Rwanda pour l'administration. Le ministre de la Coopération devient un secrétaire d'État intégré au Quai d'Orsay. Il s'investit par la suite dans l'Institut François Mitterrand comme président, puis comme membre pour défendre le bilan de son ancien patron. Sous les présidences de François Hollande et d'Emmanuel Macron, il continue régulièrement de soutenir une politique néocoloniale de la France en Afrique, notamment lors de ses nombreuses interventions radiophoniques et télévisées, où il est invité à titre d'expert, prétendument neutre, de la politique étrangère française. La question porte donc sur le rôle et la responsabilité qu'a eu Hubert Védrine en 1994. Minimiser son pouvoir en 1994 est un autre point de la stratégie d'Hubert Védrine selon l'historien Duclerc, de manière à se décharger de toute responsabilité en se qualifiant de simple observateur, peu averti du sujet. Les archives confirment pourtant qu'il est un personnage pivot dans la politique française au Rwanda et qu'il a une très bonne connaissance des faits et de leur gravité, ce qu'il continue de nier contre l'évidence jusqu'à maintenant. Les décisions étaient prises par le président François Mitterrand, mais le rôle de Védrine était justement de les transcrire et de s'assurer qu'elles soient bien exécutées. Il était le deuxième destinataire des télégrammes après le président de la République, identifié comme l'autorité à qui l'information sur le Rwanda doit parvenir, écrit l'historien Duclerc. En effet, l'appui inconditionnel de la France va s'avérer être décisif pour faire contrepoids à la pression exercée par le FPR sur le plan militaire et politique. Pourtant, Paris est parfaitement informé des intentions des extrémistes du régime. Dès le 15 octobre 1990, l'ambassadeur écrit dans un télégramme diplomatique que
« La population rwandaise d'origine Tutsi compte encore sur une victoire militaire même partielle du FPRR qui lui permettra d'échapper au génocide. » Alors, je voulais juste rappeler que le FPR, c'est le mouvement qui est dirigé par Paul Kagame et qui a mis fin au génocide, le Front Patriotique Rwandais.
Cet entêtement au sommet de l'État est d'autant plus irresponsable que les signaux d'alerte se multiplient à mesure que le pays s'enfonce dans la crise. Le 24 janvier 1993, le président de l'association Survie, Jean Carbonard,
et sur le plateau du journal télévisé de France 2, de retour du Rwanda où il a participé à une commission internationale d'enquête sur les graves violations aux droits humains. Il témoigne avec émotion.
Invité de notre journal, Jean Carbonard, président de l'association Survie. Vous avez passé 32 ans en Afrique sur des projets de développement rural. Vous connaissez très très bien ce continent. Vous venez de faire partie d'une mission de la Fédération internationale des droits de l'homme qui a passé environ 15 jours au Rwanda. Vous venez juste de rentrer. On vient de voir des images tout à fait effrayantes. Et vous avez d'autres témoignages à donner sur ces violations de droits de l'homme assez terribles.
Oui, ce qui nous a beaucoup frappé au Rwanda, c'est à la fois l'ampleur de ces violations, la systématisation, l'organisation même de ces massacres, parce que on a parlé d'affrontements ethniques, mais en réalité, il s'agit de beaucoup plus que d'affrontements ethniques. C'est une politique organisée que nous avons pu vérifier malheureusement, parce que dans plusieurs coins du pays, en même temps, éclatent des incidents et ça n'est pas fortuit, ça n'est pas gratuit. On sent que derrière tout ça, il y a un mécanisme qui se met en route et on a parlé de purification ethnique, de génocide, de crimes contre l'humanité dans le pré-rapport que notre commission a établi et nous insistons beaucoup sur ces mots.
Alors, ce que vous dites, c'est qu'à la différence de ce qui se passe actuellement dans l'ex-Yougoslavie, où on est un petit peu malheureusement spectateur, là, nous pouvons avoir un rôle beaucoup plus actif. Nous pouvons agir sur l'événement.
Oui, c'est les deux choses qui m'ont frappé. D'abord, l'implication du pouvoir. Jusqu'à quel niveau nous sommes réservés pour le moment. Mais on est convaincus, tous les membres de la mission étaient convaincus que jusqu'à un niveau élevé dans le pouvoir, il y a une responsabilité très grande. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que notre pays, qui supporte militairement et financièrement ce système, a une responsabilité et nous étions 8 nationalités représentées dans notre commission. J'étais, disons, le représentant le plus inconfortable parce que je mesurais que notre pays peut, s'il le veut, faire peser sur cette situation. Et alors, je citerai quelques détails qui sont bouleversants pour nous montrer notre responsabilité dans cette situation. Nous avons vu des centaines de témoins et des fosses comme celles que vous avez vues. Il y en a pratiquement dans presque tous les villages. Ce que nous avons découvert aussi, et c'est à l'image de la Yougoslavie, toutes les femmes de la minorité Tutsi voient leurs maris, leurs frères, leurs pères tués. Elles sont ensuite comme des bêtes, abandonnés, violés, maltraités. Et un prêtre me disait, dans un camp de réfugiés, de personnes déplacées, où il y avait 350 000 réfugiés qui étaient là, il m'a dit, vous ne pouvez pas savoir la souffrance de ces populations. Ça va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et j'insiste beaucoup, nous sommes responsables. Vous aussi, monsieur Mazur, vous pouvez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose pour que cette situation change, parce qu'on peut la changer si on veut. Et notre gouvernement, en pesant sur les autorités du pays, qu'elles assistent militairement et financièrement, peuvent très rapidement. On peut faire beaucoup, nous-mêmes, et en entraînant aussi nos partenaires de la Commission européenne et du monde occidental.
Donc cette interview date de janvier 93, pour rappel.
Donc, tu veux dire un an avant le génocide, hein. Ouais.
Tout à fait. Donc le constat qui a été fait a été écarté par Paris. Paris n'ignore rien de la logique génocidaire en cours, mais n'infléchit donc pas sa politique. Cependant, année après année, des documents et témoignages s'accumulent, pointant la responsabilité de François Mitterrand et son entourage élyséen dans le soutien militaire, moral et politique à un régime préparant le génocide des Tutsis. En 2021, le rapport MUSE, produit par des experts américains, a conclu que le soutien de Paris au régime d'Habyarimana a rendu possible un génocide prévisible. Ainsi, depuis, Hubert Védrine se fait le défenseur permanent et intransigeant de la politique française au Rwanda de François Mitterrand, et évidemment de son propre rôle à ses côtés. Et par conséquent, depuis, l'ombre d'Hubert Védrine plane sur plusieurs points, et notamment, comme on l'a déjà évoqué, l'opération turquoise qui a permis aux génocidaires de fuir au Zaïre avec armes et bagages, la question des livraisons d'armes par la France pendant le génocide et après l'embargo de l'ONU sur la fourniture d'armes. Hubert Védrine finira lui-même par reconnaître ces livraisons d'armes et de munitions en avril 2014 devant la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale, en expliquant
« Il s'agissait de la suite de l'engagement d'avant, la France considérant que, pour imposer une solution politique, il fallait bloquer l'offensive militaire. C'était pour contrer les attaques. Ça n'avait rien à voir avec le génocide. »
L'ancien secrétaire général de l'Élysée ne peut pourtant pas ignorer que l'armée rwandaise du régime génocidaire fut le fer de lance du génocide. Et puisque les troupes du FPR mettent fin au massacre dans les zones dont elles prennent le contrôle,
bloquer l'offensive militaire
contribue aussi à prolonger le génocide. En outre, il est reproché à Hubert Védrine, à l'instar de Patrick de Saint-Exupéry, un des premiers journalistes à avoir documenté le rôle de Paris dans le génocide des Tutsis au Rwanda, de relayer la thèse du double génocide. Thèse soufflée à François Mitterrand dès l'été 1994, au moment où il est accusé de tous côtés d'avoir mené une politique aveugle, voire criminelle au Rwanda. Cette thèse entend minimiser le génocide avéré perpétré contre les Tutsis au Rwanda en invoquant d'autres massacres dans l'est du Congo depuis 1994. Or, malgré tout ce qu'on a pu décrire au Congo, il n'y a rien qui peut prouver un génocide dans l'est du Congo. Védrine ne nie jamais le génocide des Tutsis, mais il interroge en permanence la qualification des massacres en République démocratique du Congo. La porte est donc toujours laissée ouverte. Et il relaie et soutient ceux qui emploient ce terme, tels que Pierre Péan, Judy Rever, Charles Onana. Ce dernier a été condamné depuis en décembre 2024 pour complicité de contestation publique de l'existence d'un crime contre l'humanité et il est considéré par de nombreux observateurs et médias comme un révisionniste. Enfin, Hubert Védrine écrit aux rédactions, appelle les patrons de journaux, demande des droits de réponse ou attaque en justice de manière frénétique celles et ceux qui le mettent en cause dans la gestion du dossier Rwanda en 1994. Quelques exemples récents. En mars 2024, contre le journaliste Patrick de Saint-Exupéry. En 2019, contre Annie Faure, une médecin humanitaire présente au Rwanda en 1994, qui accusait Hubert Védrine d'avoir accepté ou fermé les yeux sur la livraison d'armes aux génocidaires pendant le génocide. Ou des droits de réponse dans Mediapart en juillet 2021, après une interview de l'auteur franco-rwandais Gaël Faye, ou encore en juillet 2023 dans Libération, suite à un article sur le procès d'Annie Faure. Peut-être, à minima, serait-il préférable que tant qu'il n'aura pas reconnu la réalité de ce qui s'est passé, qu'il ne soit plus invité en tant que soi-disant spécialiste à la radio ou à la télé pour commenter des faits de géopolitique.
Oui, à minima, ce serait pas mal.
On va terminer par un petit agenda. On a entendu parler aujourd'hui et demain à Grenoble, dans le quartier Saint-Bruno, il y a un festival décolonial avec des conférences gesticulées, des concerts. On n'en sait pas beaucoup plus, mais on vous invite à regarder. Il y a des infos sur le site ICI Grenoble.
La semaine prochaine également, donc mardi 15 avril, il y aura un quiz contre la France-Afrique au bar Le Tranquillou, donc, qui est sur le boulevard Joseph Vallier. Le lendemain, le mercredi 16, il y aura une rencontre avec l'historien Olivier Lecourt-Grandmaison sur les massacres du 8 mai 1945 en Algérie.
Ensuite, le samedi 19 avril, l'action antifasciste AFA organise une journée de réflexion sur l'antiracisme et les luttes décoloniales, où il y aura Urgence Palestine, Parole d'honneur, TSEDEC. Ça se passe à partir de 15h à la salle des Baladins, à la Villeneuve.
Ouais, et on se disait qu'on pouvait vous annoncer dès maintenant, mais on vous en reparlera lors de notre prochaine matinale décoloniale qui sera le 23 mai. Il y aura le 3 juin à Antigone une soirée sur la Kanaki. Merci.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir. Au revoir.
C'était la matinale décoloniale.
Retrouvez-nous en podcast
sur campusgrenoble.org.